Bonsoir, bienvenue sur Nino domani a Palermo. Vous pouvez écouter le podcast sur le site radiogalera.org en allant sur Nino domani a Palermo, vous tapez le nom de l'émission dans culturel. Et voilà qui ce soir on revient à parler de d'une réalisatrice sur laquelle on a dédié différentes rétrospectives, mais cette fois-là on va parler d'Alice Rohrwacher, la mettant en rapport surtout avec une thématique, che cette thématique-là c'est la thématique de la fête. Avant de parler de la thématique de la fête, il faut bien dire il faut faire, comment dire, un référence. Cette référence c'est à la théorie de Nonlier du sociologue anthropologue Marc Auger. Qu'est-ce que c'est Nonlier, qu'est-ce que c'est Nonlier pour Marc Auger? Nonlier, c'est Nonlier sans identité. C'est une autoroute, c'est une périphérie dortoir, c'est un centre commercial, c'est Nonlier où tout le monde passe mais ne s'arrête pas. A différence, Nonlier, c'est Nonlier avec une forte identité. Une forte identité comme par exemple un village. Donc, une périphérie dortoir diffère d'un village qui a ses traditions, qui a ses identités, qui a sa communauté, qui se connaissent. Tous les gens se connaissent parce que, pourquoi? Pour cette chose de l'identité. Donc, Nonlier se contraddistingue pour son rapport identitaire à la communauté. Et il faut dire comme Alice Rohrwacher va plus loin dans ça, parce qu'elle fait une distinzione netta entre monde rural et monde urbain. Et on voit comment pour elle, le monde rural non seulement c'est un monde avec une forte identité communautaire, mais c'est aussi un monde sain, un monde pur, un monde qui a des valeurs authentiques, des valeurs vraies. Et dans ce monde-là, si définit la communauté avec ses valeurs, avec son identité. Le monde urbain, par contre, c'est un monde qui est dépourvu de cette identité. C'est un monde, encore une fois, non seulement dépourvu de cette identité, mais pour Alice Rohrwacher, c'est un monde malsain. C'est un monde qui a perdu l'authenticité, qui a perdu les vraies valeurs. Faites cette contextualisation-là, on va faire un esempio dans sa filmographie. On parle de son film qu'on a déjà analysé, Lazzaro et Re. On va dans un Re comme Lazzaro, il y a ce métayer qui vit dans une condition de semi-esclavage, mais qui vit dans une forte dignité. Il vit dans le labour de la terre. Du moment che d'emblée il doit quitter l'inviolata, parce que il vit ce qui dans le film appelé le grande arnaque, il grande inganno, du moment qu'il quitte l'inviolata, il se retrouve au marge de la société. Il se retrouve à vivre des petits expédients, il fonde des braquages, il fonde des arnaques dans la rue, il cherche à survivre et il vit surtout, on voit comment ils sont passés de vivre des maisons, des fermes, vieille, dans un état, on va dire, dégradé, oui, mais quand même, il vivait dans cette grande famille. Il y avait une vingtaine de personnes par maison de ferme. À chaque fois, il échangeait. Il était tout un communauté dans cette maison de ferme. Et quand il va en ville, il n'a pas le sou pour louer un appartement. Donc, il vit tout des expédients, comme je dis, mais il vit aussi dans une citerne abandonnée. E se citerna si trova, Alice Rohrwacher la place a côté del rail di un chemin de fer. Donc, c'est un Nonlier par excellence. On voit donc cette déchéance, come la réalisatrice voit cette déchéance du passage du monde rural au monde urbain. Et dans quel sens le thème de la fête, que c'est la chose qui nous intéresse, s'inscrit dans cette dichotomie entre monde urbain et monde rural? Dans le sens où la fête est entendue comme un rituel qui va ancor plus a rafforzare l'identità della comunità. E per far ça, on va analizzare tre film, trois de ces quatre long métrages. On commence par Corpo Celeste, après on passera à Les Meraviglies, Les Merveilles, et on terminera avec son dernier long métrage, La Chimère. On a déjà vu les premières des films, faut dire des mots sur La Chimère. La Chimère sort en décembre. La Chimère sort en décembre 2023 et à l'occasion de la sortie de La Chimère, le Centre Pompidou dédie un rétrospective sur la réalisatrice de la durée d'un mois. Donc, il dédie tout un étage à la réalisatrice avec la sortie aussi d'un livre, une interview sortie à l'occasion de cette rétrospective qui s'appelle Alice Rockwacker, Le Vrai du Faux. E dunque on comprende l'importanza della realizzatrice, come on a vu le film sono été pluriprimé, Corpo Celeste, Ruban d'Argent, Le Merveille, Prix du Jury, La Zelo Felice, Prix du Scénario, dunque on comprende l'importanza di Alice Rockwacker, che è sûrement un des intellettuali italiani contemporanei, qui a un po' rilevant à niveau international. Et on va passer all'analyse de cette film, Corpo Celeste, en relation à la thématique de la fête comme rituel qui consolide l'identité de la communauté. Il faut dire que la protagoniste de Corpo Celeste, c'est un gamin, elle a 12-13 ans, c'est Marta. Marta si è interpretata per Ile Vianello, sette figlie dalle film, le film si passa a Reggio Calabria, che è le chefflier della Calabria. La Calabria è la regione, la plus, on va dire, tradizionale, entre guillemets, on pourrait dire aussi arriérée, même si c'est un jugement de valeur, ma c'est un peu la vérité. D'Italie. Il y a beaucoup de choses qui sont, vabbè, on parle de l'andrangheta, on parle d'une mentalité très ancienne, on va dire comme ça. La famille de Marta, composée par la mère, la sœur aînée et la Marta même, vient de Suisse. Elle est née, la famille vient de Reggio Calabria, après il émigre en Suisse, à un moment il décide de rentrer dans leur ville natale. Donc on voit que la mère va travailler dans une boulangerie, il loue une maison qui appartient à l'église. Et l'histoire, le plot du film, c'est très simple, parce que le film ne raconte rien d'autre que l'effet qui Marta, cette fille-là, doit faire la confirmation. La confirmation, c'est après la première communion, c'est un rituel chrétien qui est un rituel aussi de passage entre l'adolescence et l'âge adulte. C'est, sans la confirmation, au moins en Italie, on ne peut pas se marier, donc il signe, il marque l'âge adulte de ce point de vue-là, même si ce sont des adolescents qui font la confirmation. Alors, il faut dire qui Alice Rockwacker, au moment du choix du casting, elle a eu beaucoup de difficultés pour trouver l'attrice qui pouvait interpréter Marta. Pourquoi elle a eu beaucoup de difficultés? Parce que toutes les filles de Reggio Calabria qui se sont présentées au casting étaient des filles très intelligentes, vivaces, mais quand même elle avait un fort accent régional, comme elle-même affirme. Et ce n'est pas une question d'accent régional simplement, c'est le fait que Marta devait représenter une fille qui n'avait pas ce que Marx appelait la sovrastructure, elle n'avait pas le conditionnement de la société, dans ce cas calabrese, elle n'avait pas le conditionnement de la société calabrese, parce qu'elle venait d'un monde autre qui était la Suisse. Donc, à la fin, après une année, elle a trouvé, après une année qu'elle a passé à Reggio Calabria a étudié la mentalité de ce village, elle a finalement trouvé un fille qui était un fille, qui était l'enfant d'une famille qu'elle était amie à elle. questa famiglia là vive da un gran comunità IP, la più gran comunità IP d'Italia. Donc, on voit comment elle choisit vraiment une fille qui est libre, libre de tout conditionnement social, de tout conditionnement, comment dire, de tout sovrastruttura, pour la pointe. Pour la pointe, justement. On voit dans le développement de l'histoire, on voit comment tout le monde prend la confirmation comme une chose qu'il faut faire. Il ne se questionne pas ni les adolescents, ni les adultes. La communauté ne se questionne pas sur le pourquoi faire la confirmation. Martha, dans sa liberté, et dans sa, comment dire, dans son émancipation de conditionnement, elle se demande, elle questionne même sa foi. Et au contraire, par exemple, della catéchiste même, la catéchiste, elle essayait d'apprendre les dogmes de l'Église aux enfants, aux adolescents, dans une façon totalement gaga. Elle faisait faire des jeux, un peu des chansons, des jeux, sans que vraiment il comprenne la réalité des choses. Et à un moment, la catéchiste répète plusieurs fois à cet adolescent: vous devez apprendre par cœur cette phrase, parce qu'au moment de la cérémonie, quand il y aura l'évêque qui viendra vous bénir pour la confirmation, vous devrez dire, réciter par cœur cette phrase. Cette phrase, c'est une phrase en araménien, qui est tiré de l'évangile selon Matthieu, qui dit Eli, Eli, lama sabachthani. Personne ne sait la signification de cette phrase. L'araménien, c'est une langue, on ne parle plus. La catéchiste même, elle ne connaît pas la signification de cette phrase. Mais Martha s'interroge et on voit des scènes du film dans lesquelles elle se répète entre elle-même. Che ça veut dire? Eli, Eli, lama sabachthani. Eh bien, Eli, Eli, lama sabachthani, ça veut dire mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et là, on voit la vraie sacralité de Martha, la vraie foi de Martha, qui diffère des choses qui sont à faire pourquoi elles sont dues, pourquoi on doit les faire pour la communauté, on va les faire. On ne va pas parler du rapport du sacré avec Chia, Alice, Rockwacker, mais on va insister sur cette chose. La confirmation, c'est un rituel. La confirmation, c'est un rituel, c'est un fait. En tant que rituel, c'est un fait. Et c'est un fait qui va à consolider la communauté. Et dans cette conception des faits sur laquelle Martha s'interroge, Martha oui, s'interroge, dans cette conception des faits, elle, à un moment, elle s'éloignera de cette communauté parce qu'elle refuse, pour une série de choses qu'on a déjà vues, elle refuse de l'intégrer, cette communauté. Mais la mère, à un moment, lui dira, la convaincra. Elle si couperà les cheveux comme au Moyen-Âge, quand les femmes renonçaient pour aller au couvent, renonçaient à leur identité de femme, si couper les cheveux à zéro pour faire pénitence, on va dire. Marthe va faire pénitence, va renoncer à l'intégration de la communauté, si couper les cheveux. À un moment, on voit une scène successiva dans laquelle il y a comunque più spazio-temporale dans les films, spazio-temporale, e dans cette coupure-là, à un moment, il y aura Marthe, qui, pour la volonté de la mère de la faire intégrer à la communauté, il a, avec les cheveux coupés, mais bien coiffés, faire cette fameuse confirmation. Donc, elle accepterà après un éloignement de la sa communauté d'appartenance, elle accepterà de l'intégrer, en fin de compte. Et la fête doit être entendue comme, dans ce cas-là, un rituel de soudure de la communauté. Maintenant, je vais vous faire écouter une chanson qui est une chanson vraiment cagole, comme on dit à Marseille. C'est une chanson qui me fait penser au balletti qui faisait faire la catechista pour cette fête, elle faisait danser les filles, les faisait danser comme un peu des vedettes de la télé, comme... giusto con The Vedette della Tele, e c'è una chanson che ha gagnato il Festival di Sanremo, che è chanté par un vedette della Tele, che s'appelle La rappresentante di lista. La rappresentante di lista, la chanson c'è Ciao Ciao, on l'écoute.
La nostra serata finisce qui e ora la fine del mondo. Ciao ciao!
Come stai, bambina? Dove vai stasera? Che paura intorno! È la fine del mondo, sopra la rovina sono una regina. Mamma, non so cosa salvare. Sono pezzi, già mi manchi, occhi dolci, cuori infranti. Che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore.
Ça, c'était l'esprit avec lequel la chantechiste faisait danser les filles, les jeunes filles, par exemple la cuisine de Marthe qui avait 6-7 ans pour cet événement qui c'était la cérémonie avec l'évêque. Un peu cet esprit, on va dire cagole, on va dire comme on dit à la Marseillaise, l'esprit de la fête vraiment. Voilà, parce que c'est un fête, même si c'est une fête religieuse, même si c'est une fête catholique, c'est une fête. Et c'est une chose qui renforce et confirme, la confirmation confirme, l'identité de cette petite communauté de campagne qui est Reggio Calabria. Maintenant, on va passer à un autre film, qui est Les Meraviglies, duquel on a déjà parlé, mais on le revoit en relation à cette thématique de la fête. e on va a voir come dalle meraviglie il ha un direzione opposé chi sui la protagonista, la protagonista della, delle meraviglie è un'altra adolescente che ha preso mal l'età, l'age, pardon, de Marta, e s'appelle Gelsomina e lei è interpretata par un'attrice, un genere attrice d'origine rumena che s'appelle Maria Alexandra Lungu. Ora, entre Marta e Gelsomina, idea in fait, come dire, on assiste alle, dalle meraviglie a un concezione differente della comunità. E la traiettoria che suivi Marta se un linea droite del loignement di questa comunità. La traiettoria che suivi Gelsomina se piuttosto un linea, un spirale che reviam ver le centre, un curve che reviam ver le centre di quelle le parti. E in fait, vuoi dire che cosa vuoi dire? Je vous explique. Le film è ambiente, le decor du film se la campagna dell'Ombrì. La campagna dell'Ombrì è là où Alice Rockwager ha vécu son enfance, où elle vit maintenant. C'è un film fortemente autobiografico. Il y a le père de Gelsomina qui est un apiculteur. E il vi sette famiglie là, come dalla Virrell, le père d'Alice Rohrwacher, Messier Rohrwacher, d'origine alemana come Wolfgang, come le, nel film Wolfgang, l'apiculteur perde Gelsomina, fa l'apiculteur ostile perde Alice Rohrwacher. E cette famiglia là vive, vive totalmente a un'autarchia, autarchia vuol dire un'autonomia, totalmente detaché du monde. Il produce se cose, se legumes, se fruit, il produce il vino, il lavante, il sommiel. Il vino totalmente ha un'autonomia par rapport alla comunità di l'entour, par rapport alla lompada terre, il sonne dalle zone 90. Voilà. E on voit come Gelsomina, che ha trois serres, de petite, e un cadet che la Adam de Samuankel, e a un momento Gelsomina domanda a sa ser cadette, la chante, dance, dance, e lui domanda le chante, la chanson qui c'è un tube che tout le monde connaît en Italie, c'è la chanson de Ambra Angiolini, t'appartengo, che ha un peu marqué tutta la generazione de, e tutta la generazione des années 90, chi è te adolescente alle sene 90, non la mai pa perché non la déjà mi. E in fait, cette, pourquoi? Perché lei è un adolescente che era già son perse, vraiment hyper, pas sévère, ma vraiment dans son style, dans son être en dehors de la communauté, dans son être, on va dire, un hippie total. Il è trop rigide dans ses convictions, on va dire. Il est trop rigide. Et donc, à un moment, on voit l'exigence d'intégration dans le monde, on va dire, entre guillemets, normal, par cet adolescent qui a une envie d'être conforme aux autres, le conformisme des adolescents. E c'est quoi l'occasion? L'occasion c'est un show télévisé. Un show télévisé d'un petit télévision local où il y a un'animatrice che è Monica Bellucci, abillée come un DS, etruschi, dans toute sa beauté, qui ve ce show della télévision locale, ve promouvoir un tourisme de masse sur ce magnifique terroir qui était la campagne ombre, qui est la campagne ombre, qui était la terre magique des Etrusques, e Gelsomina, comme toute la communauté, ve absolument participer à ce show-là. Elle ve participer par cette volonté de entre guillemets affiché de faire partie de la culture de l'image, la culture de la télé, la boîte. La télé, c'est une boîte éphémère, mais au moment dans lequel tu rentres dans cette boîte, on voit ton visage dans cette boîte, tu es immortalé dans l'éternité, avec une séquence qui peut durer même 30 secondes, mais ton visage est immortalé. C'est ça la conception, c'est cette envie de faire partie de la communauté. Le père è totalement contraire. Ils sont des conneries, des stronzate, il dit. Il veut absolument pas. À un moment, l'histoire continue et on voit comme la fille finalement convainc le père à participer à ces choses-là. Et en ce moment-là, il se retrouve, il vont dans une grotte, qui c'est la grotte du lac, dell'île du lac de Bolsena. C'est un'île magnifique qui fait penser à l'île des morts de Bloch. Il y a beaucoup de références picturales dans ce film. Voilà. Et dans ces grottes, se passe, il y a le prise de vue de cette show télévisée. C'est une grotte qui est étroite, pas si grande que ça. Il y a tous les participants qui sont habillés en costume étrusque, dans une façon un peu ridicule, je dirais. Et pour l'occasion, Gelsomina et son ami Martin, il avait préparé un petit spectacle pour s'exhiber. Ce petit spectacle, ils le font tout de suite après que le père vient interviewer sur son miel. Le père qui était tellement fier, tellement devant, tellement autoritaire aussi, je dirais, devant cet appareil infernal, la télé qui est la symbole de la société de masse, surtout les années 90, maintenant on a Facebook, Instagram, etc., social network. Mais la télé, allora, a cette époque, c'était le moyen de manipuler la société, on va dire, e di aderire a una società. Allora Gelsomina, le père reste bouche bée davant la télé, il arrive pas, il bégaye, il fait un discours, oui, l'agriculture c'est bien. E Gelsomina, de son côté, avec Martin, fait un spectacle, un petit spectacle. Martin siffle, il siffle d'une façon magnifique en imitant le son des oiseaux, e Gelsomina fait sortir des abeilles dans sa bouche. Donc on voit que ces dons qu'ils ont, les dons enfantins d'un côté des sifflets, de l'autre côté Gelsomina qui travaille avec les abeilles jour et nuit, elle aide le père, elle est abituée avec les abeilles, elle fait sortire les abeilles de sa bouche, on le voit dans la scène du film, l'attrice même, sono delle vraie abeilles che l'attrice fait sortire dalla bouche. E là Monica Bellucci, la déesse étrusque, l'animatrice, reste un peu dégoûtée de cette chose. Et là, il a un déclic. C'est là qui, à travers, elle comprend tout à travers cette. Elle voit le père Béguiller, elle voit Monica Bellucci, qui est la beauté incarnée dans cette déesse étrusque. Elle la voit dégoûtée pour cette chose qui pour elle c'était très pure, très naïve, très, enfin, très, très belle. C'était un don qu'elle avait de faire sortire le belle Elisabeth della Bouche. E là è un altro déclic. Donc, le déclic de Martha, c'était dans le corpo céleste, c'était une phrase de l'Évangile. Le déclic de Gelsomina, c'est cette image-là qu'on voit, qu'elle fait sortir les abeilles de la bouche. Et là, on comprend comment la ligne, elle se courbe, elle retourne envers le centre, elle retourne sur elle-même, envers le centre duquel elle est partie. Elle retourne envers sa communauté d'origine, qui est sa famiglia, qui est ce monde autarchique, ce monde isolé, ce monde pur, avec des valeurs saines, des valeurs fortes. C'est là qui les show télévisées qui rappresentent pas quelque chose, c'est pas un fait au sens propre, mais c'est quand même un événement festif pour cet adolescent. C'est là qu'il, d'un côté, il voulait s'allogner de sa famille d'origine pour après retourner dans sa communauté, qui est la famille, qui est la communauté primaire. Donc, on voit comment, par contraste, cette fois-là, il y a la fête qui fait rentrer. E rafforzare, rentrare Gelsomina nella sua famiglia d'origine e rafforzare la comunità. E ancora un fois, rafforzare l'identità de cette adolescente et l'identité de sa famille, donc de son monde, de sa communauté rurale. Je souligne rural, parce que le monde duquel on parle, la fête identitaire, c'est un fait lié au monde rural, dans la Richard Rockbacher, parce que dans la société de masse, dans la société représentée par la ville, il y a plus de sens d'identité, comme je vous ai dit. À propos de cette toujours concept de fête, je vais mettre une autre chanson très festive et toujours très cagole qui appartient, c'est un tube, un autre tube italien qui appartient à cette société de masse, qui appartient à cette société cagole, comme on pourrait l'appeler à Marseille. Et je vous mets la chanson de Annalisa Mon Amour. On va l'écouter.
Quindi ci piacciamo oppure no? Sangue nella dance floor, ci ballerò, anche se è soltanto un altro stupido. Sexy boy, io ci sto. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Ah, sopra soldi già spesi. Colazioni francesi. Ah, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Io farò una strage stasera, ballo tra le lampadosfere. Lei piace sia a me che a te. Ho visto lei che bacia a lui, che bacia a lei, che bacia a me. Mon amour, amour, ma chi baci tu? Disperata e anche leggera, vengo per rubarti la scena. Ehi garçon, ho un'idea. Soldi già spesi, colazioni francesi, con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo, me lo immagino. Dovrei, non dovrei dirti che ho visto.
Dans cette chanson vraiment très festive, très. Je pense, vous direz, mais vous parlez, tu parles d'Alice Rockwacker, tu parles de cette thématique Antello, mais en fait, moi, je suis un peu proche de ce qui disait Pasolini, je suis intellectuel, donc j'ai une vision claire de la société. Saviano par contre disait une autre chose, je suis intellectuel parce que j'amène les épreuves. Prenez ces chansons cagoles comme des épreuves de cette société de masse dans laquelle on vit. Après, sont belles, hein? Moi, je suis un mec de taverne, pas de caverne, de taverne. Donc j'aime faire la fête, j'aime boire, j'aime l'italo disco, j'aime la leggerezza, c'est pour ça que je vous le pose ces chansons un peu cagolitasse tout en parlant de tout en parlant de thématiques, on va dire, sérieuses, entre l'eau. Et alors, on passe à l'analyse du troisième film. Le troisième film che on va analyser, c'est le quatrième, en ordre de sortie, le film d'Alice Rockwacker. C'est le dernier long métrage d'Alice Rockwacker, c'est La Chimère. Et il faut dire que La Chimère, on passe, on a vu che dans Corpo Céleste, toujours, il y avait cette sacralité fortement lié à la religiosité chrétienne, e dans La Chimère il y a une sacralité totalement différente. Alice Rockwacker sort de la sacralité chrétienne pour aborder celle du mythe greco-romain, celle de la étrusque, bien sûr, celle de la mythologie païenne. E dans cette mythologie païenne, on voit brevement la chimère, c'est l'histoire. Déjà, le nom chimère, la chimère c'était un monstre, il y a un exemplaire, c'est un exemplaire d'art étrusque, une statuette qu'on a retrouvée qui appartient au monde étrusque, c'est d'une finesse sublime. C'était un monstre qui a la tête des lions, le cœur des serpents. Et c'est un des esemplaires dell'arte étrusque la plus belle. La chimère symbolise le mal, symbolise un peu les problèmes, les angoisses dans la mythologie étrusque, et romaine, et gréco-romaine. Et en même temps, on sait bien que chimère, chimera, ça veut dire utopie. Ça veut dire voilà, quelque chose d'injoignable, mais qui est un modèle. Et dans cette utopie, pourquoi la chimère, selon moi? Parce que c'est un film très symbolique, comme je vous ai dit, par rapport alla mythologie, mais aussi très utopique. Parce que c'est toute une recherche. C'est toute, comment dire, c'est comme aller excaver, aller chercher au sous-sol. En fait, il y a ces tombaros, les saccageurs de tombeaux. C'est l'histoire des saccageurs de tombeaux étrusques. C'est une histoire, pas vraie, mais qui dans l'enfance d'Alice Rohrwacker, dans la jeunesse dans les années 90, il y avait beaucoup de saccageurs de tombeaux dans les campagnes de la Toscane, dans les campagnes de l'Ombrie. C'était des paysans qui se faisaient quelques sous en cherchant les tombeaux étrusques et en vendant au contraband là les objets qu'ils trouvaient dans ces tombeaux, qui c'était des objets d'art extrême. C'est l'histoire d'un saccageur de tombeau qui s'appelle Arthur, qui est interprété par Josh O'Connor. Arthur, c'est un rabdomante. Un rabdomante, déjà là, on voit l'élément magique. Un rabdomante, c'est comme un sorcier qui, avec un baguette en bois, il est capable de retrouver des cours d'eau, des petits ruisseaux souterrains. Le rabdomante Arturo utilise cette baguette pour retrouver le tombeau, donc il est le leader de ces saccageurs de tombeau. Le décor du film, c'est magnifique, parce que c'est un tout petit village della campagna toscana, della campagna umbra, donc de l'Ombrie, donc cette village magique perché dans les montagnes, dans les collines, dans les montagnes, les collines dell'Appennino, e il y a cette atmosphère un peu très onirique. Et pourquoi je dis très onirique? Parce que en fait Arturo, il a il a une malinconie incroyable, on le voit dans tous les films, il a un grand malinconie, che pourquoi? parce qu'il a perdu sa bien-aimée. Sa bien-aimée qui s'appelle Beniamina. Beniamina, interprétée encore une fois par Ile Vianello, celle qui était l'adolescente Marta dans Corpo Celeste, maintenant elle devient la femme, la jeune femme, la vingtaine, Beniamina. L'amoureuse de la bien-aimée d'Arthur. Cet Anglais qui se trouve catapulté dans ce monde per scelte Appennini. E lui, chaque descente dans le tombeau, c'est là qu'il a l'image de Beniamina. Donc Beniamina, on ne comprend pas, elle est disparue, on sait qu'elle est morte, mais on ne sait pas, il n'y a pas l'évidence de sa morte. Il y a la merde Beniamina, interprétée par Isabella Rossellini, figlia du grand réalisateur, qui elle è convaincue che Beniamina è vivante, e il y a tout ses serres, par contre, une série enorme qui savent qui elle est plus vivante. Mais Arthur, elle est là, comme sa mère, toujours, à chaque fois qu'il a cet pouvoir, qu'il descend, qu'il identifie un tombeau, qu'il descend dans le tombeau, à chaque fois, il y a des flashs qui lui viennent en tête, des visions. Et cette vision, c'est la vision de sa bien-aimée, c'est la vision de Beniamina. Donc, pourquoi la mythologie gréco-romaine? Parce qu'on voit l'évidence, et c'est évident la relation avec les mythes d'Orphée et Eurydice. Orphée descend dans les Hades, c'est les enfers gréco-romains, pour aller récupérer sa bien-aimée Eurydice. Et le dieu des enfers, Hades, lui dit: ok, tu peux la récupérer à condition qu'en jouant à lyre, l'instrument, tu te tournes jamais à voir si elle est derrière toi ou si elle n'est pas encore derrière toi. Orphée, tellement il était inquiété, tellement il aimait sa Eurydice, qui a, juste avant de sortir de la grotte des enfers, il se tourne, pash, et il perd toujours son aimé Eurydice. Et voilà que c'est l'histoire d'Arthur et Beniamina, que c'est d'un beauté extraordinaire, d'une délicatesse. Je vous invite à le voir. C'est dommage si vous n'avez pas vu ce film, parce que c'est vraiment un beau film. Et voilà. Qui on revient cette fois-là à cette thématique de la fête. Vous direz: qu'est-ce qu'il y a à voir la fête avec cette belle mélancolie-là? La fête, il y a à voir parce qu'à un moment, comme ça, dans les villages, il y a un événement qui est catapulté dans l'histoire du film. Vous direz: mais c'est rien à voir, pourquoi cet événement-là dans les villages? Parce qu'on voit che questo villaggio magnifico della collina toscana, perché dalle montagne, avec le mura che l'entourent, Arturo che vit in un baracca intorno a côté di questo mura, e lui che partecipa avec le sotto tombaroli, il vont, le saccagere de tombò, che vont dalle bar du villaggio. Quindi, donc, on voit cette communauté villageoise, cette communauté, sono tutti des amis qui se connaissent très bien. Pardon. Et à un moment, il y a Pâques, le carnaval, et c'est un moment magique. On voit, et là on doit vraiment remercier Hélène Louvart, la directrice de la photographie, qui a fait des magies avec cette prise de vue. Elle capture une lumière dans les ruelles de ce village, une lumière, je dirais, vibrante, la lumière de l'hiver. Le carnaval s'est fait en février en Italie. Et la lumière de l'hiver est une lumière atténuée, mais qui quand même illumine. Et dans cette scène malinconique, à un moment, il y a un homme avec un manteau noir, un cylindre en tête. Et après, le suite derrière, il y a Arthur, et derrière, il y a un char, et tout le monde est déguisé dans ce char, tout le monde est déguisé. Et à un moment, waouh, pom, c'est le bordel, la fête, les hommes habillés en femmes qui s'abrassent entre eux, maquillés avec les rouges à lèvres, les femmes qui boivent l'alcool, tout le monde, les vieilles qui boivent, les enfants qui font la fête, qui crient. Et ça, c'est le carnaval, et ça, c'est la fête. Et là, ça, on voit vraiment l'esprit de la fête. On voit va veramente come set come un hotel rurale, e forse man su de per set fette de village, per set fette identità, per set fette carnevalesche, per set fette chi rappresenta le monde à l'envers, parce que rappresenta, pourquoi rappresenta le monde à l'envers, parce que Arturo, déjà lui-même, Arturo, il va il va sous terre, donc c'est le monde de l'au-delà, il est en communication avec le monde de l'au-delà. Et un des affiches, il y a plusieurs affiches, un des affiches, c'est sur cette image-là du carnaval qui, selon moi, est très belle, avec les chars, des hommes qui s'embrassent entre eux, la lumière jaune du soleil, il y a un rayon de soleil qui illumine la scène, vraiment une capture, comment dire, la réalisatrice della fotografia capture ce moment magique. Et une autre image, c'est le tarot de Marseille, et spécifiquement le tarot du pendu. Il y a Arturo comme le pendu, qui est pendu à un arbre par un pied, et la tête en bas, le piano. Donc c'est le monde à l'envers. Pourquoi le carnaval c'est le monde à l'envers? Parce que c'est la subversion de toute règle, c'est la fête de l'excès. Dans le monde païen, dans la culture païenne, on revient encore une fois à la païennité de ces films, le carnaval c'était une fête qui était la fête de la fin de l'hiver. On laissait l'hiver pour rentrer dans le printemps. Et le fait de laisser la mort derrière son dos, la terre est stérile en hiver, elle ne donne pas ses fruits. Par contre, l'arrivée du printemps, c'est la fécondité, c'est la terre qui se réveille, qui commence à donner ses fleurs, ses fruits. Et donc, c'est cette fécondité-là, la fête dans le monde païen. Pardon, le carnaval rappresente cette fécondité-là e rappresenta maintenant les excès, parce que dans le monde chrétien, par contre, c'était la dernière fête avant la carême, donc c'était la fête aussi dans le monde chrétien, qui c'est une tradition qui s'est perpétuée depuis le monde païen, la fête des excès. C'était la fête dans laquelle on buvait, dans laquelle on faisait vraiment la grosse fête. Et on voit, à propos de ça, j'ai vu même une chanson qui n'est pas cagole cette fois-là. C'est une chanson de Chantel, s'appelle Disco Partisani. On va écouter cette chanson et après je vous parle d'une chose qui nous touche de près, à nous, les Marseillais.
My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brazilian. My baby came down from Romania. She was a queen of Transylvania. But now we live in suburbia without any friends or Brazilian.
Partizani! Hey. senza legge. Un po' di musica non stop.
Voilà, on revient à nous et je vous ai dit qu'on allait parler d'une chose qui nous touche de près et sûrement c'est une chose qui renforce la communauté qui n'est pas folklorique, parce que les choses folkloriques, une fois ils m'ont dit quelqu'un, il y a la musica popolare, populaire e popolareggiante. Popolareggiante ça veut dire qui fait semblant d'être populaire, mais qu'en réalité c'est la bourgeoisie qui l'écoute. La musique populaire, c'est la musique napolitaine, par exemple, ou même ce tube que je vous ai fait écouter avant. Et la musique populareggiante, c'était la musique que les peuples écoutaient et faisaient dans le 19e siècle, mais qui après est devenue la musique des bourgeois. Et on passe par exemple à la tarantella en Italie, au sud de l'Italie. C'est plus les peuples qui écoutent la tarantella, les peuples du sud de l'Italie, ils écoutent Nino D'Angelo, ils écoutent je sais pas quoi. Ecco, dans cet esprit-là, je voudrais vous faire comprendre comme nous à Marseille, on a quelque chose de très similaire. L'an 2013, je pense, il y avait une très belle exposition, rien à dire, hein, sur le carnaval, pour l'appoint, qui était organisée au Musem. C'était l'année d'ouverture du Musem, musée d'anthropologie, musée delle culture, della civilisation d'Europe e della Méditerranée. Et cette exposition-là, c'était une exposition anthropologique sur les différents masques anthropologiques des différents carnavals européens et méditerranéens. Très belle. En même temps, la même année, il y a eu le carnaval à Marseille, le carnaval où tout le monde sait qu'à la fin du carnaval, on brûle les chars où il y a les vieilles, comment ça s'appelle, si je mets Caramentran, la vieille Caramentran provençale. Cette vieille Caramentran là, c'est rien d'autre que la symbolisation du malheur apporté par l'année, per la vieille année de l'hiver. Quand on l'enterre l'hiver avec le carnaval, c'est la fête de l'espoir, de la fécondité. Donc on brûle ces chars là. À chaque fois, il y a des problèmes avec la police, à chaque fois, il y a des affrontements. Et tous les années, en plus de ça, pourquoi il y a des affrontements? Bien sûr, parce qu'on brûle les chars de Caramentran dans la passe publique à la plaine, à Jean Jaurès. Pourquoi on brûle ça? Mais ce n'est pas que l'effet qui fait des affrontements à la police, parce qu'en étant le monde à l'envers, c'est aussi le monde dans lequel on proteste, c'est un carnaval très engagé, c'est un carnaval qui de fois en fois il porte à l'avant des thématiques. En 2013 c'était contre il y avait les camarades partout, donc c'était contre la fliquisation de Marseille. Et après ça a été contre l'habitat indigne, on se souvient pas, on n'oublie pas quand ils sont tombés les maisons à Noailles, quand il y a le 5 novembre sont tombées les maisons et il y a eu un désastre, il y a eu je sais pas combien de délogés dans toute la ville, des familles entières délogées. On n'oublie pas les derniers carnavals qui étaient contre la gentrification, quand on a refait la place de la Plaine, la gentrification de la ville, la gentrification, les Airbnb. On est passé de l'habitat en ligne à un habitat à des locations qui sont exclusivement pour Airbnb, des investisseurs étrangers qui viennent, américains, je dirais plutôt parisiens, qui viennent ici, achètent des trois maisons et les mettent en location comme Airbnb, et donc il n'y a plus la place pour les gens. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qui c'est une révolte, les carnavals, qui c'est le monde à l'envers, parce que par exemple, il y avait une fête païenne de laquelle a beaucoup repris le carnaval, s'appelait la Saturnalia, un fête en honneur du dieu Saturne, dans laquelle les esclaves se moquaient et allaient se moquer des patrons, de leurs patrons. Les esclaves se moquaient de leurs patrons. C'était tout permis pour cette fête-là. Les esclaves pouvaient faire tout contre leurs patrons. Et les patrons devaient sous-joguer parce que c'était la voix de l'esclave qui, dans ces jours-là, allait se révolter. Et voilà, je vais laisser avec ces mots, je vais laisser avec, on comprend bien comme dans une communauté qui a ses valeurs, qui peut être une communauté comme la communauté marseillaise, qui c'est, même si c'est pas une communauté agricole, c'est une communauté, Marseille c'est pas la France, hein, c'est pas les chichis, c'est pas, maintenant la Plaine commence à devenir un peu, à perdre son identité vraie, parce que ça devient des terrasses énormes, un peu comme les vieilles porcs. Mais moi, je me souviens quand je suis arrivé à Marseille, les terrasses étaient très petites, les gens, on se connaissait tous. Maintenant aussi, on se connaît beaucoup, les vieilles de la Plaine se connaissent tous. Voilà, dans cet esprit d'identité, de communauté urbaine a Marseille, ma dans le cadarisse Rockwagner, esprit de consolidation della communauté rurale, dans laquelle elle voit la vraie valeur, le rafforcement de l'identité, la fête vient à pour la pointe comme le rafforcement de l'identité. Et le carnaval, c'est la fête de la fête, par excellence, c'est la fête des excès. Pour moi, l'excès, c'est la fête. Et je vous laisse et je vous dis à lundi, comme d'habitude, sur Nino Doni à Palermo. J'espère que cette émission-là vous a plu, parce que moi, ça m'a plu. Bisous tout le monde de la part de Simone. Ciao.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo'. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, papputello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per dingrindina che ce l'ho?
Marcello,
son fatto un nome di cello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma.